Jusqu'à 14h, on en jase.
minutes sur les ondes de Boulevard 101, c'est l'émission On en jase. À la météo aujourd'hui, c'est moins 7 degrés, faible neige intermittente. C'est ce qu'on vit depuis le début de la matinée. C'est peu d'accumulation, on parle d'une accumulation de 5 cm de neige. Demain, moins 11 degrés, quelques averses de neige. Et on se retrouve avec mercredi, un moins 9, alternance de soleil et de nuages. Donc une belle semaine qui commence sur Québec. Pascal, avant la pause, on en parlait, c'est vraiment pas facile pour la famille moyenne au Québec. La classe moyenne, l'épicerie est plus chère, le gaz est plus cher, tout est plus cher. Et là, mauvaise nouvelle pour ces familles, parce que l'inflation frappe à nouveau en décembre avec une hausse de 2,4%. Et pour en parler avec nous, on a Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal au bout du fil. Gabriel, comment vas-tu?
Ça va très bien, bonjour.
Good. Gabriel, qu'est-ce qui explique qu'on est encore dans ce mouvement inflationniste au Québec et au Canada?
Donc, comme tu le dis, là, l'inflation est tombée ce matin à 2,4% au Canada. Ce qui s'explique là, essentiellement, c'est que l'année dernière, pourquoi ça a augmenté de 0,2 point de pourcentage par rapport au mois passé, quand on annualise, c'est très simple, là, c'est que notre ancien premier ministre du Canada, là, Justin Trudeau, avait décidé de suspendre là, la TPS sur certains produits. On voulait rendre Noël plus accessible.
Ouais.
Les aliments au restaurant, les jouets, les jeux de passe-temps, les vêtements pour enfants. Bref, il y avait une suspension de la TPS, donc ça coûtait moins cher. Maintenant, avec le fait de réappliquer ça, bien, le prix payé par le consommateur a augmenté. Ça vient expliquer là, ce mouvement à la hausse de 2,4%. Maintenant, pour le comprendre, là, on parle du Canada. Quand on regarde le Québec, l'inflation, on est encore les cancres. On est à 3,2%. C'est beaucoup plus élevé. Puis ça, il y a au moins deux raisons pourquoi le Québec est plus élevé et la pire province du Canada. D'abord, on n'a pas eu cette petite pause, là, le fait d'avoir une suspension de la taxe, l'équivalent d'une taxe que toutes les autres provinces ont avec le fédéral. C'est-à-dire qu'il y a une suspension de la taxe sur l'essence. Le Québec ne l'a pas. Qu'est-ce que ça vient faire concrètement? Ben nous, notre prix à la pompe a descendu un petit peu de 6 % par rapport à décembre 2024, parce que justement, le prix du baril a descendu. Tandis qu'au Canada, c'est 13,8 % de diminution. Fait que c'est important. Puis en parallèle à ça, les loyers ont beaucoup plus augmenté au Québec qu'ailleurs dans le Canada, ce qui fait en sorte qu'on a une pression inflationniste de 5,2% quand on prend le locatif et le non-locatif. Bref, concrètement, les Québécois en arrachent plus parce que l'inflation est plus élevée.
Oui, en effet, du côté des loyers, Gabriel, j'ai un ami qui m'a écrit hier, écoute bien ça, Pascal, OK? C'est un ami qui est séparé. Il vit dans un 4,5. Il fait coucher chez deux filles adolescentes dans la même chambre. Il n'a pas le choix. Sinon, il n'y arrivera pas. Il y avait un loyer à 980 $, un 4,5 au centre-ville, non chauffé, non éclairé. Pas de rénovation qui est faite dans le bloc. Rien changé. Et il va être rendu à 1058 $ qu'il va payer par mois. Donc, c'est une augmentation de tout près de 100 $ par mois. Ça fait une augmentation de 1200 $. Tu sais, pour un gars qui ne travaille pas un salaire exorbitant, c'est beaucoup sur le portefeuille.
C'est juste son loyer. Là, on ne parle pas de l'épicerie qui va augmenter.
Exactement.
Aussi. On ne parle pas de tout ce qui est le besoin quotidien.
Oui.
Ça fait un grand changement dans sa vie, c'est certain.
Exactement. Gabriel, est-ce qu'on va avoir une courbe inverse qui va arriver quelque part en 2026 ou faut juste s'attendre à ce que l'inflation continue d'augmenter, notamment en raison de ce qui se passe au sud de la frontière?
C'est une super bonne question, puis c'est vrai que ça fait mal là, parce qu'on parle beaucoup de chiffres Statistique Canada, mais concrètement, c'est les gens qui ont de la difficulté à faire le plein et de payer le loyer. Là. Puis l'industrie, vous avez raison de le mentionner. Je pense qu'on va probablement voir une augmentation là prochainement, notamment parce que parce qu'avec le nouveau budget de 2025, c'est vrai qu'il y a une abolition complète là en matière de prix. Donc on va voir, mais je suis pas persuadé qu'il va y avoir une réelle diminution. Bien au contraire, on a beaucoup d'incertitudes. On voit notamment au niveau commercial qu'il va y avoir la renégociation de l'accord de libre-échange Canadien-États-Unis-Mexique. Donc on va voir comment ça va s'articuler tout ça. Est-ce qu'on va avoir d'autres tarifs douaniers également? Là, on sait qu'il y a énormément d'incertitudes parce que c'est particulier, mais la géopolitique aujourd'hui, on pense au Groenland. Est-ce que si le Canada décide d'envoyer des soldats? Et là, on quitte un peu le domaine économique, mais il y a un impact. Parce que si on a plus de tarifs douaniers, bien est-ce que nous, notre prix à la consommation va augmenter? Beaucoup, beaucoup d'incertitudes pour 2026, comme il y a eu beaucoup d'incertitudes pour 2025 également en matière d'inflation, de tarifs tarifs douaniers. Bref, il va falloir qu'on s'attache là-dessus parce qu'il risque d'y avoir pas mal de montagnes russes encore une fois cette année.
Et les montagnes russes vont affecter directement les gens, donc nos voisins, nos collègues, nous-mêmes, nos enfants, nos parents. Tu entrevois quoi, toi, de ce genre de hausse-là et d'incertitude des montagnes russes financières?
Mais c'est parce que ce qui est difficile, là, c'est qu'il y a plusieurs éléments, là. Quand on parle de montagne russe, on peut avoir un choc sur les marchés boursiers, ce qui veut dire que, comme vous le dites, que ce soit ton voisin, ton frère, ta mère qui ont investi peut-être pour leur fonds de pension, tout ça, ben peut-être que ça va être plus difficile. On l'a vu en avril 2025. Comment ça pouvait diminuer là le marché boursier? Ça fait mal de se dire, ben coudonc, est-ce qu'il va y avoir un impact sur ma prise de retraite? Après ça, on est tous des consommateurs. Quand on regarde là aujourd'hui, le prix du bœuf qui augmente de 17% pour sur un an, le prix du café qui augmente de 30%, ben ça fait mal dans le quotidien en tant que consommateur. Puis maintenant, j'espère surtout qu'il n'y aura pas d'impact en tant que travailleur. Parce que si on arrive de l'avant et on met beaucoup de tarifs douaniers de la part des États-Unis, mais pas que, ce que ça peut faire en sorte, c'est aussi une diminution de l'emploi, là. Hein, on peut penser notamment dans notre secteur de bois d'œuvre, qui ont 45% ben ça, c'est peut-être des gens qui ont de la difficulté, des scieries qui ferment. On a vu récemment une scierie fermait. Ça fait mal, c'est des travailleurs. Il y a plusieurs municipalités au Québec qui vivent là, du bois d'œuvre notamment, puis ce n'est qu'un exemple, mais ça fait mal sur plusieurs pans quand on regarde nos voisins. Il peut y avoir un impact en tant que consommateur, travailleur et investisseur aussi.
Non, c'est tellement vrai, puis pensons juste à des travailleurs qui perdent leur emploi avec l'inflation qu'à l'heure actuelle, c'est catastrophique pour eux. Pour rappel, on parle avec Gabriel Giguère, analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, Mark Carney est allé en Chine. Il a signé une entente économique. On va avoir des voitures chinoises électriques au Canada. Il est allé au Qatar. Il a signé des ententes économiques également. Comment tu interprètes ces deux gestes de notre premier ministre?
Alors moi, je vais y aller dans une approche là, vraiment de politique publique et moins de politique et de parler de relations avec les Américains. Là. Quand je regarde l'accord avec la Chine, je pense que c'est une bonne chose quand même. Là. Au final, il faut juste comprendre que si on permet de retourner aux anciens tarifs, parce qu'avant, c'était 6% le tarif sur les véhicules chinois. Par la suite, on a cédé aux pressions américaines pour aller sur un 100%. Autrement dit, on les évince en quelque sorte du marché canadien. Maintenant, ce qu'on dit, c'est un instant, si les consommateurs souhaitent acheter un véhicule chinois de haute qualité, ainsi soit-il pour environ 49 000 exemplaires ou 6% des nouveaux véhicules neufs, là, environ. Donc, c'est pas beaucoup de véhicules neufs, mais en réalité, je pense que c'est une chose qui est intéressante parce que ça donne plus de possibilités aux consommateurs. Au final, faut quand même voir qu'à travers les années, les dernières décennies, on a vu d'autres exemples de tarifs douaniers sur des véhicules, notamment aux États-Unis, sur les véhicules japonais, lorsque Toyota commençait à beaucoup exporter. Puis ce que ça vient faire, essentiellement, ça vient augmenter la facture pour le consommateur. Autrement dit, ça vient faire en sorte que les Québécois, les Canadiens payent plus cher pour un véhicule. Je pense que c'est une bonne chose d'avoir accès à des véhicules, maintenant, chinois, qui sont moins chers, de bonne technologie, essentiellement. Et en même temps, pour le dire, ça nous permet également de réduire de plus de 75% les tarifs qui étaient appliqués au canola canadien, surtout liés à la Saskatchewan, à 15%. Et ça vient faire en sorte que pas plus tard que ce matin, il y avait un article de Reuters qui indiquait que on a recommencé au niveau de la Chine à acheter du canola canadien. Mais c'est parce qu'au Canada, on exporte en 2024 31 milliards de dollars en Chine de valeur de produits et on importe 90 milliards. Et sur le 31 milliards qu'on exporte en Chine, ben il faut quand même comprendre que 8,8 milliards ou environ 30% de ça, c'est de l'agriculture. Donc, on a besoin de s'assurer d'avoir le marché chinois disponible pour le canola. Je pense que c'est gagnant-gagnant de faire du commerce avec moins de barrières tarifaires.
L'affaire est que moi, je suis toujours divisée entre des accords économiques avec la Chine, n'importe quel pays, mais au profit de quoi et de qui. Tu sais, en ce moment, on voit les États-Unis sont en train d'altérer leurs relations économiques avec les Chinois, avec les Russes. Prenons la Chine parce que nous, Mark Carney est allé rencontrer le Xi Jinping, en fait, du côté de la Chine pour justement revoir certaines choses qui avaient été bloquées auparavant. Mais des fois, j'ai peur qu'on prenne des décisions hâtives parce qu'on doit sauver quelque chose immédiatement ou on doit prendre la balle au bond immédiatement. Des fois, pour moi, agir rapidement, c'est agir de façon insouciante ou accepter les risques qui vont suivre. Est-ce qu'on est assez connaisseur de ce qui peut arriver comme problématique au niveau des véhicules, par exemple, moi, j'ouvre toujours cette porte-là, quitte à avoir l'air un peu là-dessus trop souvent en onde, mais tu sais, il y a quand même des équipements de télécommunication puis de technologie qui sont bannis maintenant au Canada parce que ça ne rentre pas dans nos normes, tiens. Puis au niveau de la fiabilité des véhicules et tout ça, la Chine devra revoir leurs véhicules pour que ça se passe pas comme à l'étranger et que ça se passe super bien sur nos réseaux routiers. Sinon, ben ça va être l'offre et la demande, hein. C'est pas fiable, parfait, on n'en achète pas. Les risques économiques, industriels, ça appartient au marché. Par contre, au niveau de la sécurité des données, de la cybersécurité, là, on a quand même une préoccupation qui est importante à mettre dans nos communications. Les logiciels, les technologies qui proviennent de la Chine pour des raisons de sécurité nationale puis de vie privée ont été bannis à certains moments. Il y a beaucoup de véhicules modernes qui collectent des informations, GPS, diagnostic, applications connectées, etc. Ça en fait partie aussi. C'est quelque chose qu'on doit voir quand on voit des équipements de télécommunication comme Huawei, des caméras de surveillance comme Hikvision, des applications logicielles, même gouvernementaux pour des appareils qui ont été bannis, WeChat, etc. Ça a été retiré. Moi, j'ai peur que dans la course économique actuelle, on oublie des enjeux importants.
Parce que là, je pense que ton commentaire est vraiment pertinent parce qu'évidemment, là, la question de la sécurité publique, c'est central. Ma réponse est en deux volets. La première chose, c'est, si on met ça de côté un instant, puis j'y reviens, l'inquiète-toi pas, je pense que le commerce est toujours une bonne chose parce que ça permet d'en avoir plus de concurrence, donc meilleurs produits, soit de meilleure qualité ou à plus faible prix pour le consommateur. Puis on vient de parler d'inflation, la vie coûte plus cher. Je pense que c'est une bonne chose pour le consommateur d'avoir accès à une plus grande gamme de produits disponibles sur son marché. Maintenant, sur la question de la sécurité publique, c'est très, très important comme question. J'espère qu'il y a eu et qu'il y aura des inspections de ces véhicules-là pour s'assurer que ça respecte les standards, puis qu'il n'y a pas de problématique de données, notamment. Mais ça va être vraiment du côté des inspections du fédéral, j'ai l'impression. Maintenant, j'ai pas l'expertise pour dire comment les inspecter, mais tu as tout à fait raison de mentionner que ça doit être un enjeu qui soit pris en compte et que le travail soit fait du côté du fédéral. Une fois que c'est fait, une fois qu'on nous dit que c'est correct, je pense quand même qu'il faut s'assurer de pouvoir commercer avec la plus grande partie du monde, en fait, de façon la plus unilatérale, au sens où on veut pas mettre de tarifs, parce que la dynamique actuelle est la suivante. Une fois que ça s'est dit, les États-Unis, c'est 3/4 de notre exportation. Mark Carney nous explique qu'on veut exporter 2 fois plus à l'étranger. C'est une bonne idée d'essayer d'avoir de nouveaux partenaires commerciaux. Maintenant, on va voir comment ça s'articule, mais on comprend qu'on a une trop grande dépendance envers les États-Unis. Alors, d'élargir notre marché, la Chine, ça fait longtemps là, qu'on est un partenaire commercial. Hein, puis surtout que c'est notre deuxième partenaire commercial, faut le dire. Donc, d'aller vers là, c'est normal. Maintenant, on veut aussi aller en Europe. On essaie d'aller un peu partout. On est allé au Qatar aussi pour essayer de sécuriser certains investissements. C'est important de s'assurer d'avoir plusieurs partenaires commerciaux. Maintenant, on va être très lucide aussi. Les États-Unis vont rester fort probablement notre premier partenaire commercial pour encore très longtemps, probablement des décennies, là, sinon plus. Donc, ayant cela en tête, diversifier, oui. Maintenant, ça va être de voir aussi comment le résident de la Maison-Blanche va réagir face à cet nouvel accord-là. Mais ça commence à être, c'est moins clair, mais on espère quand même que le commerce, que ce ne sera pas le gouvernement, plutôt l'administration Trump qui va dicter comment le Canada va faire c'est comme son commerce, parce que sinon, ça devient invivable. C'est quand même de la politique interne.
Je suis tellement d'accord avec toi. Tu sais, moi, je réfléchissais à ça dans les dernières heures, puis la phrase qui m'est venue en tête pour l'explorer en onde ou la nommer en onde, c'est « commercer quand c'est utile, bloquer quand c'est risqué ». Puis je pense qu'on devrait vraiment focusser là-dessus. C'est les mots que je suis capable de mettre sur ma pensée actuellement avec ces rencontres-là. C'est pas d'être pro-Chine ou anti-Chine, mais c'est d'avoir une lucidité en tête qu'on n'a pas toujours eue, puis qu'on a eu un grand laxisme au Canada à ce niveau-là, avec plusieurs appareils, des drones qui ont été capables de franchir nos frontières bien plus longtemps qu'ils ont été capables aux États-Unis. Donc, c'est pas une question de ne pas faire de commerce avec la Chine, mais je vais répéter ma phrase qui sera mon air d'aller pour ces rencontres-là. C'est vraiment commercer quand c'est utile puis bloquer quand c'est risqué.
Gabriel Giguère est analyste politique senior pour l'Institut économique de Montréal. Gabriel, toujours un plaisir de te parler. Je te souhaite une excellente semaine et on se reparle prochainement.
Un plaisir partagé. Bonne journée à vous autres.
Salut, Gabriel.
Salut, Gabriel. Gabriel Giguère, on est revenu sur l'inflation qui frappe le Québec, le Canada. Et également, on est revenu sur l'entente là, du Canada avec la Chine.
Puis tu sais, ça ouvre beaucoup sur le commerce, puis sur, effectivement, l'offre et la demande, nos poches. Tu sais, il faut toujours se poser la question, par exemple, quand un produit est moins cher, bien, le coût potentiel, c'est la faille de sécurité, du moins avec la Chine dans ce cas-ci. Puis ça, c'est énorme. Hein?
Oui.
Donc, produit moins cher, faille de sécurité. C'est comme toutes les applications, quand vous voulez voir, vous allez ressembler à quoi, vous autres, à 60, 70 ans, etc. Donc, je pense que aussi simple que dans les applications ce soit, qui sont pour s'amuser, que dans un appareil qui va entendre toutes nos conversations familiales, voir nos déplacements, etc. Puis la dépendance aussi à un pays qui, si à un moment donné, il y a une chaîne d'approvisionnement qui est bloquée, tu sais, on a eu ça en Chine, en pandémie, pardon, à un moment, on n'était plus capable d'avoir des véhicules avec certaines technologies parce que toutes les puces, etc., étaient faites en Chine. Si à un moment donné, on vient qu'à avoir un conflit international, qu'est-ce qu'on peut nous couper? Donc, oui, pour le commerce, oui, pour la baisse de prix, mais toujours, ça doit être tellement complexe. Là. C'est les enjeux internationaux, ils sont, ma foi, Jeff, passionnants, mais complexes.
J'aimerais voir tous les alinéas à l'entente. Ça doit être des pages et des pages, justement, de « ouais, mais là, s'il arrive telle chose, on coupe ça, s'il arrive ci,
ma crainte, c'est que ça soit pas tant discuté, mais que la Chine l'ait dans son
Ouais, c'est ça, l'ait dans sa stratégie, puis décide, justement, de venir faire de l'espionnage, parce qu'on le sait, ça existe réellement. On fait une courte pause à Boulevard 101. Par la suite, on a parlé tout à l'heure, Pascal, avec Mathieu Lacombe, qui appuie, c'est le ministre des Communications et de la Culture au Québec. Il appuie Christine Fréchette. Mais là, on va parler avec Suzanne Roy, députée de Verchères. Elle est à la CAQ depuis 8 ans. Elle a décidé publiquement d'appuyer Simon-Jolin Barrette. On veut savoir pourquoi. Mathieu Lacombe nous a parlé de ce jumelage économie nationaliste qu'il voit avec Christine Fréchette. Pourquoi Mme Roy, elle, se tourne vers Simon-Jolin Barrette?
Un gars qui ne s'est pas encore officiellement présenté.
Non,
là.
Qui ne s'est vraiment pas officiellement présenté. Il a même pas sorti pour dire qu'il réfléchissait comme Christine Fréchette a fait. Un gars qui se terre dans le silence à l'heure actuelle, mais qui reçoit quand même des appuis. Cette fin de semaine, c'est Jonathan Julien, ex-ministre de la Capitale-Nationale, ministre des Transports maintenant, qui a appuyé Simon-Jolin Barrette. Et ce matin, c'est Suzanne Roy. Donc, on parle avec Suzanne Roy immédiatement après cette courte pause à l'émission On en jase sur Boulevard 101.